la vie des cafés, quoi.
Tout à fait, PMU.
C'est-à-dire le tiercé, ouais. Les dominos.
Complètement.
Donc voilà. Et je pense qu'on se fera un thème aussi autour de tout ça, quoi.
Bah, je suis d'accord. On y réfléchit pour la prochaine, d'ailleurs. Comme ça, ce qu'on dit, on le fait. On se met la pression.
Voilà.
T'es parti? Okay.
Bon, bah, très bien, c'est parti alors.
Mais comme tu disais, en fait, ça sera pas la photo qui va illustrer l'émission, mais la photo qui va illustrer cette émission, ça sera le prochain disque qu'on va s'écouter.
Oh là là. Non mais attends, je fais juste une parenthèse. T'es trop fort en termes de je sais pas comment on appelle ça, de passation, de mais, passe dé.
Je suis avec un footballeur, donc
rebondissement.
Coup, je pense toujours passe décisive en fait, monsieur Crimo. Tu vois, quand je suis avec toi, je suis obligé de me dire, ok, il est placé où? Où est-ce que je renvoie la balle? Où est-ce qu'il me la renvoie? Tu vois. Mais pour le coup.
Bon, l'essentiel c'est de pas être hors jeu, quoi.
Tout à fait, c'est exactement ça. Sinon, on réenregistre cette émission.
C'est ça.
Bah justement, on parlait de belles pochettes, comme tu disais. Là, on sera sur une pochette sortie sur le label Boussiphone. Et on ne pouvait pas parler de clap sans évoquer la Dakha Mrakshia, qui est un style typiquement Mrakshi, où vraiment le fait de... juste le mot Dakha, ça veut dire frapper. Donc on frappe sur des percus, notamment pendant la fête religieuse Ashura. Et on tape aussi dans les mains. Et la pochette ici est juste sublime, avec des gens qui sont un peu découpés au cutter. Mais il y a un vrai esprit et il tape dans les mains. Donc voilà, j'ai dit à monsieur Crimo, je te propose que ça soit cette pochette qui illustre notre émission. Et le morceau Dramarakshia, vous allez voir que les claps ne sont pas évidents dès le début. Mais par contre, c'est quelque chose de très. Voilà, c'est de la musique de trance, il y a beaucoup de spiritualité et de la rythmique. Donc le combo pour moi est parfait. Donc on s'écoute ça, monsieur Crimo.
C'est parti.
Ostwanet Boussiphone. الفقير وربعته في الدقة المراكشية
Oh! HDR. L'émission des musiques actuelles normandes présentée par Willow Adam.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de L'Aiguille du mois d'avril. Comme à l'accoutumée, on va parler actualité musicale normande, et aujourd'hui on va même aller un poil plus loin que la Normandie. Exceptionnellement, on va parler entre autres d'un groupe d'Île-de-France, parce que leur dernier album est sorti sur deux labels, dont un rouennais, Bloody Drop Records. Ce groupe, c'est Chiptine, dont l'album Out of Nothing est sorti le 3 avril dernier. Du garage punk bien énergique, des piles électriques sur scène et une nostalgie adolescente qui les caractérise, à l'image de leur nom, Ado Pas Cher. Avant de parler plus de Chiptine, je dois vous présenter l'autre groupe dont on va parler aujourd'hui, Lidl, groupe de screamo rouennais qui ont sorti leur deuxième EP ce mois-ci. Pardon pour mon absence, je suis allé mourir à l'abri des regards. Lidl, c'est du screamo français abrasif, violent et mélancolique, qui mélange l'intime et le politique, et qui envoie une vague d'émotions brutes à chaque concert. Je vais aussi vous parler de deux concerts qui se passent à Rouen très très bientôt, et auxquels je vous invite fortement à aller, mais je vous en dis un peu plus tard. Avant de vous passer l'entretien que j'ai pu avoir avec Cyprien et Julien de Chiptine, je vais vous faire écouter un de leurs morceaux, sorti sur leur album et accompagné d'un super clip. Voici City. C'était le titre City de Chiptune. Et tout de suite, voici la première partie de l'entretien que j'ai eu avec eux.
Nous sommes avec Cyprien et Julien, respectivement le guitariste et le bassiste de Chiptune. Salut les gars, comment ça va ?
Salut, ah ben ça va tranquillou.
Votre premier album, Out of Nothing, est sorti en début de mois. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu et nous dire ce qu'il représente pour vous ?
Vas-y, Julien, je te laisse la main si tu veux.
Ouais, c'est un gros pas qu'on a franchi parce que au final on avait sorti deux EP avant ce premier album et ça fait, si je me trompe pas, ça fait bien 3 ans et demi qu'on commence à bosser dessus avec des morceaux qu'on avait déjà et qu'on a enregistrés. Et du coup, ouais, on s'est dit qu'on voulait vraiment sortir un premier album et pas repasser par la phase EP. Donc ouais, il y a une petite fierté qui se dégage, quoi.
Et oui, donc vous avez passé beaucoup de temps à travailler sur cet album. C'est long globalement de travailler sur une sortie, que ce soit un album ou un EP ?
Bah, disons que, étant donné que les morceaux sont venus un petit peu au fur et à mesure et qu'on les avait depuis un moment, je dirais pas qu'il y a une période où on a que travaillé dessus. En fait, il y a des morceaux qui sont certains très anciens, d'autres anciens. Et d'autres qu'on a fait dans l'optique, justement, un petit peu, on avait déjà dans l'idée qu'il fallait faire un album. Donc, mais je pense que c'est propre à tous les premiers albums, ce côté, on a accumulé au fur et à mesure, et du coup, si on prend vraiment du début de la composition du plus ancien morceau à la sortie de l'album, ça va être énorme. Mais... la partie où c'était plus précisément sur l'album, oui, ça a été déjà assez long parce que rien que le travail sur l'album, on l'a enregistré en août 2024. Donc, il y a eu du temps énormément entre les deux. Ne serait-ce que déjà planifier avant, se dire « Ok, tel morceau, il va sur l'album. Peut-être qu'on le fait plutôt dans tel ou tel ordre. » du coup, ça veut dire qu'on fait des transitions comme ça. Ça prend déjà énormément de temps. Il y a faire des répètes tout simplement pour l'album, pour qu'on ait les morceaux très très correctement. Notamment parce que nous, alors c'est pas le cas de tous les groupes, mais nous on aime bien enregistrer tous ensemble, ou en tout cas le gros de l'album l'enregistrer tous ensemble. Il peut y avoir des segments qui sont faits pour certains instruments à part, mais le gros de l'album on l'enregistre ensemble, et du coup faut qu'on ait toute cette préparation pour être bien calé ensemble et qu'on fasse pas 45 prises par morceau, parce que il y a aussi une limite de temps dans l'enregistrement. Et après il y a encore toute une autre phase où il y a le mix, le mastering. Faut que nous, on réfléchisse à quand est-ce qu'on le sort. Faut qu'on contacte des gens pour pouvoir le sortir. Parce que, OK, on fait pas mal de trucs en indé, mais c'est bien d'être aidé dans la sortie de l'album. Donc, si on dit un petit peu tout ça, ce qui déjà fait énormément, on a mis facile 3 ans plus sur l'album, quoi.
Oui, effectivement, c'est assez long, donc. Et vous avez choisi... Enfin, est-ce que vous aviez... Vous dites que vous aviez composé plein de morceaux et que la composition elle s'est faite naturellement sur un temps assez long et que c'est venu au fur et à mesure. Et donc, il y a des morceaux que vous avez composés et qui ne sont pas sur l'album au final ?
Non.
Non.
Il y avait. En fait, il y avait. On avait quelques morceaux, je pense que Julien, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, mais il y avait 8 morceaux, quelque chose comme ça, qu'on avait déjà depuis un peu de temps quand même. Et après, on s'était dit, là, on avance bien sur un album, peut-être qu'on peut se mettre pour réussir à faire de nouveaux morceaux, pas forcément spécialement dans l'optique de l'album, aussi parce qu'on aime bien composer, mais de se dire, on a un petit peu un projet d'album, on va rembourrer un petit peu tout ça, et ça nous fera toujours des morceaux, on adore composer, donc let's go faire des morceaux.
En fait, c'est surtout aussi qu'on est... En fait, on propose quand même relativement souvent des idées chacun de composition. Donc, en fait, ça peut arriver qu'en répétition, quelqu'un balance un truc qu'il ait trouvé et qu'il aime beaucoup, et que du coup on commence à composer autour de ce truc-là, et qu'en fait au final ça devient un morceau, alors plus ou moins rapidement, parce que je sais que par exemple le morceau City au début ne ressemblait pas forcément totalement à ce qu'il ressemble sur l'album. Il était beaucoup plus lent, il y avait moins d'intention et tout, on a fini par changer un petit peu ce genre de truc. Mais en fait, on ramène régulièrement des nouvelles idées de composition dans le groupe. Donc en fait, on compose au fur et à mesure du temps, et on a dû faire un choix de morceaux quand même à mettre sur l'album. Après, c'est vrai que là, tous les morceaux qui sont sur l'album, on est encore en phase de composition tout le temps. On a déjà des nouvelles idées et tout, mais c'est vrai qu'on a quand même fini par retenir les 12 morceaux qu'on connaît, sachant qu'il y en avait bien 8, comme de Cyprien, ou qu'on avait déjà en fait.
Et au niveau de vos inspirations pour la composition, est-ce qu'il y a d'autres morceaux, d'autres artistes, qui vous inspirent particulièrement et qui sont importants pour vous ?
C'est surtout que en fait on a quand même des inspirations assez différentes chacun, donc on va se retrouver tous les quatre sur certains artistes et sur certains styles. Après c'est vrai que de manière précise, nous les artistes qui nous inspirent c'est surtout pour le son qu'ils produisent. Moi je sais par exemple que Cyprien ça va être beaucoup tout ce qui est Jack White, Rage Against the Machine, des utilisations de pédales, je ne citerai pas le nombre de pédales de Cyprien sur son pédalboard, mais voilà, je sais que il y a certaines pédales qu'il utilise qui sont référées à certains artistes, que moi personnellement j'ai d'autres influences, que Enzo aussi peut en avoir d'autres. Donc au final, des artistes qui nous influencent, on en a tous chacun, et du coup on essaye de créer un truc global qui nous ressemble à nous tous en fonction de nos inspirations différentes. Et du coup, ça, on cherche pas forcément à créer un truc nouveau et tout, mais c'est vrai qu'on arrive à avoir un truc assez représentatif de nous en fonction de nos influences.
Et si vous deviez en isoler un ou deux que vous aimeriez partager de ces morceaux influences, ce serait lesquels ?
Alors, je sais que par exemple, pour tout ce qui va être batterie, Lounès nous avait pas mal parlé, et surtout au moment de la composition de l'album, il était vraiment beaucoup là-dedans. En tout cas, il s'y était mis depuis suffisamment longtemps pour qu'il l'ait bien intégré, et suffisamment récemment pour que ce soit vraiment il y ait un shift dans sa manière de composer. Mais il s'était beaucoup intéressé à tout ce qu'avait fait Sinatra, Sinatra et Count Basie. Je crois que c'est Count Basie, mais je suis pas sûr de la prononciation. Mais ça, il avait beaucoup aimé, par exemple. Et de l'autre côté, comme disait Julien, moi, j'avais, alors surtout au moment de l'album aussi, je sais que dans l'album, j'utilise beaucoup, par exemple, des octaveurs. Et c'est quelque chose que fait beaucoup Jack White, que ce soit pour des octaves au-dessus ou pour des octaves en dessous. Donc, c'est chacun ressort ce dont il a besoin dans chaque morceau, mais les influences peuvent être vraiment très différentes.
Après, ouais, je pense que si on devait retenir un seul truc, un ou deux artistes, ce serait des trucs plutôt assez lourds, je pense, parce que la majorité de l'album, mis à part quelques morceaux, sont assez puissants. Donc, je ne saurais pas citer un artiste en particulier. Moi, par exemple, de mon côté, je sais qu'il y a beaucoup de Turnstyle, par exemple. Mais le tout agrémenté de solo de Cyprien qui peut faire très Jack White. Donc, c'est un petit peu, on va dire, Turnstyle et Jack White, parce que voilà, le son de guitare est présent pour Cyprien. Et très, comme il disait, avec de la whammy et tout, donc on pourrait dire Jack White, et pour le côté lourd, moi je dirais Turnstyle.
On va se faire une pause musicale avant de poursuivre l'écoute de cette discussion. Les gars nous ont parlé de leurs influences, donc voici en exemple le morceau Over and Over and Over de Jack White. We'll be right back. C'était Over and Over and Over de Jack White. Et maintenant, voici la seconde partie de notre entretien.
Un morceau justement qui tranche un peu par rapport au reste de l'album, qui est beaucoup plus, plus doux, beaucoup plus calme, c'est le morceau Chiptune, donc qui porte le même nom que celui de votre groupe. Est-ce que c'est un morceau plutôt ancien que vous avez composé il y a longtemps? Comme vous disiez, il y a plusieurs morceaux qui datent de plus longtemps que la conception de l'album. Et si c'est le cas, pourquoi avoir attendu cet album pour le sortir et pourquoi ne pas l'avoir sorti au début de la création du groupe? C'est quelque chose qui se fait beaucoup dans les premières sorties d'un groupe, de s'il y a un morceau qui s'appelle pareil que le nom du groupe, ça sort souvent assez vite.
Alors, pour Chiptune, justement, c'est exactement ce morceau-là auquel je faisais référence quand je disais qu'il y a des morceaux qui sont très très anciens. En fait, c'est un morceau qui a été au départ créé par Enzo tout seul quand il a voulu faire quand il était et quoi, il avait 14, 16 ans et qu'il voulait faire un groupe. Il avait commencé à composer des trucs et Chiptune, ça fait partie un peu de ces morceaux-là. Le morceau est ancien, quoi. Paléontologique, j'irais même jusqu'à dire. Il y a peut-être aussi ce côté-là qui explique la simplicité du morceau, mais c'est vrai que c'est un morceau que nous quatre, on a beaucoup apprécié. Et en fait, quand le groupe s'est formé, il y avait ce côté, peut-être on était un peu plus jeunes, et il y avait ce côté, fallait un peu prouver. Dans un certain sens, faire des morceaux tabasse un peu pour montrer que ouais, on peut faire du gros son. Et donc, Chiptune n'avait peut-être pas autant sa place. Il y avait aussi le côté où Enzo, bah, en fait, ça faisait hyper longtemps qu'il l'avait, le morceau. Les gens autour de lui, il l'aimait beaucoup et du coup, ça l'a un peu lassé. Et nous, vraiment, ça nous frustrait un peu de ne pas le faire, ce morceau, parce qu'on voyait qu'il y avait vraiment un gros potentiel, et parce qu'on aime bien le jouer aussi. Du coup, dans ce premier album, il y a peut-être un côté plus honnête, plus direct, plus sincère. Et donc, le mettre dans cet album, bah, ça correspond plus, alors que peut-être que dans d'autres sorties précédentes, déjà, bah, il y avait plus ce besoin d'envoyer de la patate, parce que sur peu de morceaux comme ça, il faut tout de suite que ce soit un punch dans la gueule de ceux qui écoutent. Alors que là, avec un album plus long, il y a le temps de proposer plus de choses différentes et aussi du coup d'être plus sincère, plus sensible dans un sens, dans ce qu'on propose.
Et aussi, il y a le fait que le morceau, déjà de base, il existait depuis très longtemps. En fait, quand moi et Lounès, on a rejoint le groupe en 2019, on est passé par plein de phases d'expérimentation musicale. On a testé plein de choses différentes, on a essayé de se chercher un petit peu et tout. Et du coup, fatalement, le morceau de Chiptine est passé un petit peu au second plan, dans le sens où c'était déjà un morceau qui existait depuis 3-4 ans. Mais on s'était dit, on avait eu plein de retours sur scène où les gens nous disaient qu'ils aimaient beaucoup le morceau et qu'ils voulaient l'entendre sur un projet, machin. Et on s'était dit que le premier album, c'était peut-être le bon moment pour le sortir. Et on a fini par revenir dessus pour ce projet-là. Et comme je disais aussi, c'est qu'au final, on l'a pas fait. Le morceau, il existait déjà en 2016, a gardé sa structure et son intention. Par contre, on a voulu le magnifier en mettant un solo de saxophone de la part de Lounès, Cyprien qui enregistre un piano dessus et qui fait un glockenspiel. Donc vraiment lui faire honneur par rapport à ce qu'il était avant. C'est-à-dire le rendre encore plus beau et encore plus touchant, tout en gardant la lourdeur qu'on peut avoir sur les morceaux à la fin. On s'était dit que c'était le bon moment pour le faire et que si on ne le faisait pas maintenant, on ne le ferait peut-être jamais. Donc au final, c'est pour ça qu'il est sorti à ce moment-là.
Et en parlant de la lourdeur des autres morceaux de l'album, il y a des thèmes qui reviennent, j'ai l'impression. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu des thèmes récurrents de l'album et des sujets qui sont abordés en règle générale?
Oui, alors pour ce qui est, en tout cas, les paroles, je sais qu'Enzo, en général, il les écrit après qu'on ait composé, ou en tout cas au moment où le gros du morceau commence à se dessiner. Et donc à partir de là, ce qu'il fait généralement, c'est soit il a déjà un thème en tête et du coup il le reprend, il le recanalise sur ce qui est sur le morceau qui est en train d'être fait, soit vraiment c'est une fois que tout a été fait, il trouve des paroles. Et ça n'a pas été rare en tout cas sur les morceaux de cet album-là qu'il réécrive parfois un petit peu dans la phase un petit peu d'approche de l'enregistrement. Donc, pour les thèmes, il y a notamment un petit peu tout ce qui va être autour des relations. Il y a plusieurs relations qui sont présentées là dans cet album, soit des relations intimes à chaque fois qui